Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes, on va s'intéresser au journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
RFI.
Il y a quelques semaines, j'étais à Dakar, où j'ai rencontré Maxime Domeni. C'est le représentant pour l'Afrique francophone du GIJN, le Global Investigative Journalism Network, en français, le réseau mondial de journalisme d'investigation. Avec lui, j'ai voulu savoir où on en était sur le continent africain en matière d'investigation, et surtout, comment faire pour que cette pratique journalistique se développe. Bonjour Maxime, comment ça va ?
Oui, bonjour, ça va bien.
Alors, je vais commencer par vous resituer un petit peu, vous présenter. Avant de devenir représentant du GIJN en Afrique francophone, vous travaillez pour la BBC Africa. Avant cela, votre parcours, c'est aussi d'avoir été rédacteur en chef du journal d'investigation togolais L'Alternative. Vous avez aussi collaboré avec la fondation Hirondelle, basée en Suisse, ou encore été responsable de la version française du site This is Africa. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous avez roulé votre bosse ?
Bon, je suis impressionné que vous ayez toutes ces informations. Disons que ouais, j'ai un peu touché à tout, mais j'aime bien souvent dire aux gens que j'ai fait le journalisme à toutes les étapes, à tous les niveaux. Genre, j'ai fait la presse universitaire, j'ai fait la presse locale, nationale au Togo, j'ai fait aussi un peu la presse internationale. Et donc, j'ai touché aussi un peu à toutes les plateformes, la presse écrite, la presse en ligne, la radio, la télévision. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour.
Alors parlons un petit peu du GIJN, c'est une plateforme mondiale de réseau de journalisme d'investigation qui existe depuis 2003. On peut peut-être commencer par rappeler sa mission.
Oui, en fait, sa mission, c'est d'aider les journalistes d'investigation à faire leur travail, et donc à leur apporter les outils, les moyens, les réseaux, donc tout ce qu'il leur faut pour bien travailler. Nous souhaitons surtout quand même couvrir toute la planète, y compris les zones où les lois ou les régimes sont les plus répressifs. Et donc, voilà quoi. Donc, on ne veut pas laisser une région, une localité qui n'est pas couverte par le journal d'investigation, donc où des journalistes n'ont pas les moyens ou la capacité de travailler. Donc, c'est pour ça que, justement, d'année en année, GIJN, en tout cas, disons, a essayé d'élargir son réseau pour couvrir toutes les zones et dans toutes les langues. Aujourd'hui, nous avons, je pense, une douzaine de langues, y compris, bien sûr, le français. Et donc moi, je couvre un peu l'Afrique francophone, GIJN en anglais, GIJN en français, ouais.
Alors justement, comment renforcer le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone notamment ? Comment on fait ?
Ouais, vous savez, cette région comparée à d'autres régions est un peu plus difficile, parlant de journalisme d'investigation. Vous savez, le 3 mai dernier, la BBC a fait un reportage sur le journalisme d'investigation en Afrique francophone. Ils ont interrogé un journaliste ivoirien qui disait que ça fait 6 mois, en tout cas, ça fait quelques mois qu'ils essaient de recruter des journalistes pour un média d'investigation et qu'ils n'en trouvent pas. Donc, ça vous montre un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les gens et le contexte, en fait, dans lequel se trouvent les gens. Il y a quelques semaines, il y a un institut qu'on appelle Foyo Institute, qui est suédois, avec une université sud-africaine. Ils ont fait une cartographie des réseaux et plateformes de journalisme d'investigation en Afrique. Et lorsque vous jetez un coup d'œil sur cette cartographie, vous voyez que l'Afrique francophone, c'est pratiquement un désert. C'est pratiquement un désert comparé au reste de l'Afrique. Et donc, il y a un réseau qui est basé au Burkina qu'on appelle le Cenozo. Mais en dehors de ce réseau, en tout cas dans l'Afrique francophone, c'est un désert. C'est pour dire que on est en train de bâtir en fait de zéro, en fait une communauté. Il y a des gens qui s'essaient à la pratique, mais c'est isolé. Et vu le contexte répressif aussi un peu dans la région, vous oubliez pas que dans notre région, en Afrique francophone, vous avez plusieurs régimes répressifs où soit c'est instable ou soit c'est la guerre, comme dans l'est de la RDC, dans l'ouest du Cameroun, soit c'est l'instabilité, les coups d'État, ainsi de suite, dans le Sahel, le terrorisme, tout ça. Et donc, toutes ces couches, en fait, mises l'une sur l'autre, constituent en fait des contingences qui ne permettent pas l'éclosion du journal d'investigation. Maintenant, vient s'ajouter à ça la capacité en fait des gens. Comment on fait du journalisme d'investigation ? À partir de quand on commence en fait ? À partir de quand est-ce que comment est-ce que je vais faire du journalisme d'investigation ? Comment je commence en fait ? Quelles sont les techniques dont j'ai besoin en fait ? Comment je gère les informations, tout ça ? Le niveau n'est pas assez élevé, en fait. Et donc, c'est maintenant qu'on essaie de promouvoir ça. Déjà, ceux qui le font, essayer de les encourager. Et maintenant, essayer aussi de susciter la vocation auprès d'autres personnes. Il y a beaucoup de journalistes, en fait, qui ne font pas de l'investigation, pas parce qu'ils ne pourraient pas le faire, mais parce qu'ils n'ont pas de modèle autour d'eux où ils ne savent pas comment s'y prendre, en fait. Ils en entendent parler, mais bon, voilà, c'est lointain, tout ça. Donc, à partir du moment où vous encouragez ceux qui pratiquent déjà, vous suscitez, en fait, la vocation auprès de ceux qui les observent. Et puis aussi, lorsque vous intéressez à ces personnes qui ne pratiquent pas déjà, mais qui ont le potentiel de le faire, lorsque vous intéressez à ces personnes en leur donnant des outils, en partageant en fait les fruits de ceux qu'ils font déjà, vous suscitez une sorte d'armée, vous voyez, une sorte d'armée, une sorte de communauté de journal d'investigation. Nous avons par exemple un groupe dans lequel nous avons des journalistes d'investigation de plusieurs pays de l'Afrique francophone. Et je suis fier, par exemple, de citer certains pays. Vous savez, le Djibouti, c'est un pays très, très fermé. Le seul média indépendant du Djibouti est à l'extérieur, est en France.
Voix de Djibouti.
Voilà, la voix de Djibouti, notamment. Et donc, nous avons le responsable de la voix de Djibouti parmi nous. Le jour où je les ai cherchés, je savais très bien que le Djibouti était un contexte difficile. Et donc, je les ai cherchés, je les ai trouvés. Et quand on s'est trouvés, on était tous deux heureux parce qu'on se disait, ben voilà, moi, si je t'ai cherché. Et on se disait, ben, ils cherchaient une communauté comme ça. Et de même, j'ai une consoeur qui est des Comores et qui dit qu'elle est la seule, en fait, à pouvoir pratiquer le journal d'investigation. Il y a deux jours, elle me disait encore qu'ils essaient, au niveau de leurs médias, à recruter de nouvelles personnes. Et même si des gens qui ne pratiquent pas déjà, mais des gens qui voudraient en fait s'intéresser à la chose, qu'ils ont du mal à recruter des personnes. Donc, lorsque vous ramenez ces personnes ensemble et vous constituez une communauté à l'intérieur de laquelle des gens peuvent s'aider, s'entraider, faire des choses ensemble.
Concrètement, on peut dire que vous utilisez un triptyque, des outils déjà, des contacts, les bons contacts, et puis aussi une dimension de formation. C'est ce triptyque-là qui permet déjà de mettre le pied à l'étrier à des journalistes qui voudraient se lancer dans l'investigation.
C'est exactement ça. Parce que les réseaux criminels ne connaissent pas les frontières, il faut que les journalistes d'investigation aussi puissent arriver à dompter, à dominer les frontières. Et donc, déjà, c'est important de trouver des contacts de journalistes qui sont dans ces autres pays, aux journalistes qui font l'investigation. Mais en dehors des contacts, il y a des personnes ressources. C'est-à-dire que je travaille sur une thématique qui est complexe, ou bien une thématique qui touche mon pays, mais où les spécialistes sont un peu tous mouillés. J'ai besoin d'un contact indépendant, de quelqu'un d'indépendant, en fait, d'un expert indépendant. Donc, on peut aussi intervenir à ce niveau. Maintenant, bien sûr, comme il s'agit de sujets complexes, parfois on a besoin de capacités, de compétences. Vous voyez, depuis quelques temps maintenant, on parle de l'OSINT, d'investigation en open source. Ce que fait par exemple les médias comme Bellingcat, tu vois, qui sort des investigations vraiment à couper le souffle. Et donc, ces genres de compétences aussi permettent de faire des choses plus ambitieuses, en fait. Parce que parfois, ceux sur lesquels vous faites vos investigations, ils sont pas forcément dupes. Et de plus en plus, ils cachent aussi leur jeu. Et donc, il faut avoir des compétences de plus en plus poussées parfois sur certaines thématiques et pour pouvoir révéler ce que vous souhaitez révéler. Et si vous l'avez pas vous-même, vous pouvez trouver des personnes, c'est ce qu'on fait aussi. Et si vous n'avez pas immédiatement la compétence, on peut vous trouver des gens qui peuvent vous aider à avoir ces compétences. Ou en tout cas, à vous aider à creuser là où vous avez des faiblesses.
Alors Maxime Domeni, j'ai essayé de dresser la liste des organisations de journalisme d'investigation dont vous êtes, vous, membre, et j'en ai compté plusieurs. Alors il y a évidemment le GIGN, il y a la cellule Norbert Zongo de journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, il y a l'African Investigative Publishing Collective, il y a l'International Consortium of Investigative Journalism. Ça fait un sacré maillage quand même, et il faut du temps pour faire tout cela.
Ouais, c'est vrai, vous êtes bien renseigné sur moi. Je suis impressionné. Ouais, c'est vrai. Il y a ça et il y a bien d'autres. Il y a par exemple le consortium des journalistes d'investigation du Togo, le COGITO, que j'ai dirigé quelques années avant de quitter le Togo.
Parce que donc, vous êtes togolais, hein, ouais, faut le préciser.
Ouais, c'est ça, parce que je suis justement togolais. J'ai commencé aussi le métier au Togo. Du coup, on a mis en place le consortium des journalistes d'investigation du Togo, COGITO, que j'ai dirigé un temps. Voilà, en fait, je pense que c'est en pratiquant, en fait, que vous faites un nom et qui vous permet en fait d'aller de réseau en réseau, parce que parfois les réseaux ne couvrent pas forcément les mêmes régions ou ne font pas les mêmes projets, c'est parfois différent. Vous voyez, par exemple, l'ICAG, c'est une plateforme, on va dire, internationale.
Le consortium international des journalistes d'investigation, ICAG.
Voilà, c'est ça. Et donc, qui est à l'origine des grands scandales que vous connaissez, Panama Papers, SwissLeaks, ainsi de suite. C'est nos autres qui couvrent l'Afrique de l'Ouest, en fait, et qui est, disons, le plus grand réseau, la plus grande plateforme de promotion du journal d'investigation ici en Afrique de l'Ouest, qui est basée au Burkina, dont je suis membre aussi. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est limité à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il n'y a pas de cloison en fait entre ces différents réseaux. Par exemple, sur des projets comme le West Africa Leaks, qui était, disons, la première plus grande enquête transfrontalière en Afrique de l'Ouest, il y a une collaboration entre Cenozo et ICIG, vous voyez, par exemple. Et donc, il y a de plus en plus de gens, vous voyez, il y a de plus en plus de vocations, il y a une plus grande visibilité de la pratique, vous voyez un peu, et c'est bien. Moi, je dis souvent aux gens que la corruption, la lutte contre la corruption, aujourd'hui ne peut être gagné sans le journalisme d'investigation, parce que vous savez, même dans nos pays il y a souvent ce qu'on appelle les commissions anticorruption. Vous savez, ces commissions anticorruption elles-mêmes ne sont pas à l'abri de la corruption. Vous savez, il y a eu une commission anticorruption de l'Union africaine où un membre a dû claquer la porte dénonçant justement la corruption. Donc si les commissions qui sont les organes qui sont mis en place pour lutter contre la corruption, ces organes sont eux-mêmes touchés par la corruption, voyez un peu, il reste quoi? Il reste la dernière barrière que nous constituons, nous, les journalistes d'investigation. Donc, c'est important, le journal d'investigation. C'est important pour le monde entier, c'est important pour la France, il y a Mediapart, tous ces médias, tout ça. Mais c'est beaucoup plus important pour des pays comme le nôtre, où les ressources ne sont pas abondantes, mais où la corruption atteint des proportions énormes. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment promouvoir le journal d'investigation, parce que ça joue et ça va continuer de jouer un rôle important dans l'édification des nations africaines, et aussi dans le développement du continent.
Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you. In your darkness is shining. My darkness is shining.
Vous écoutez toujours l'Atelier des médias, je suis avec Maxime Domeni, qui est représentant en Afrique francophone du Global Investigative Journalism Network. Maxime, nous n'avons pas encore parlé de data journalisme, et une des missions du GIJN, c'est aussi de renforcer le data journalisme. Faire du journalisme de données en Afrique de l'Ouest, c'est compliqué, et pour plusieurs raisons, notamment la difficulté d'accès aux données, voire parfois l'absence de données. Comment palliez-vous cela ?
Ouais, ça aussi, c'est lié en fait déjà à la capacité, vous voyez, à la compétence des gens. C'est vrai qu'il n'y a pas de données abondantes dans notre région ici, parce que les gens, ils sont frileux, les autorités sont frileuses. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient de prononcer un discours, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de demander à quelqu'un qui vient de prononcer un discours, vient de faire une déclaration, de lui demander des détails sur sa déclaration. Et puis, à partir du moment où vous commencez par lui demander des détails, la personne se braque. Et donc, c'est pour vous dire que les gens, ils sont comme ça, ils sont frileux. Les gens, ils ont peur que voilà, les données, s'ils libèrent les données, tout ça, ça va montrer des choses sur leur gouvernance, des faiblesses, ainsi de suite. Mais moi, je dis que déjà, les données qui sont disponibles, on ne les exploite pas assez. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que si on commence par exploiter les données qui sont disponibles, déjà, parce qu'il y en a qui sont disponibles, et si on commence par les exploiter déjà, ça va créer une sorte d'écosystème, ça va créer une atmosphère, une ambiance qui va pousser certaines personnes à libérer davantage, ou bien qui va pousser les citoyens à demander plus de transparence à les gouvernants. Et donc là, c'est là où c'est important de commencer par faire quelque chose. Malheureusement, dans la presse afrique francophone, on n'exploite pas assez ces données. Parfois, les données que vous n'avez pas chez vous, vous pouvez les avoir ailleurs. Par exemple, vous voulez enquêter sur les exportations de café cacao de la Côte d'Ivoire vers la Suisse. Bon, je prends un exemple bête comme ça. Si vous n'avez pas de données chez vous en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller en Suisse et chercher les données d'importation de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire en Suisse, par exemple. Voyez un peu ce que je dis. Et donc, il y a ces façons, il y a ces manières de contourner ces données où il y a des institutions internationales, tout ça, qui disposent des données. Et donc, c'est vrai, on n'a pas beaucoup, toutes les données, en fait, toutes les bases de données ne sont pas encore libérées comparées à d'autres régions. Mais les données qui sont là attendent à être exploitées et malheureusement, il n'y a pas assez de mains capables de les exploiter. C'est là où moi, je regrette un peu la situation. Donc là aussi, il faut pousser les gens à faire ça, à produire plus de journaux de données. Vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, avec l'abondance de contenu en ligne mis par des influenceurs, des citoyens, tout ça, on ne peut plus continuer par faire le journalisme comme on le faisait il y a 20 ans. Voyez un peu, c'est-à-dire qu'une information qui est passée aujourd'hui, le temps que vous exploitez ça, soit à midi ou le soir, c'est déjà ça, déjà fait le tour des réseaux sociaux, vous voyez un peu. Et parfois, voilà quoi, c'est-à-dire que les gens ne vous attendent pas pour mettre les contenus en ligne. Et donc, il faut pouvoir produire des contenus originaux. Voyez un peu, des contenus que vous seul avez, des contenus sur lesquels vous avez mis du temps. Voilà, donc ces contenus, par exemple, c'est ça qui va vous distinguer et c'est ça qui va faire la différence entre vous. C'est pour ça que les gens vont venir chez vous et venir uniquement chez vous, quoi. Et donc c'est important de varier en fait ces contenus et de trouver de nouveaux moyens de raconter des histoires dans les médias.
J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui vous agaçait de la part de certains journalistes africains, c'est quand ils abandonnent des projets d'enquête journalistique en raison de moyens financiers limités ou de blocages techniques.
Ouais, c'est dommage que ça arrive comme ça. Et donc moi, vous savez, quand je rejoignais GIGN, je me suis dit voilà quoi, parce que je sens qu'il y a de la matière, il y a des choses à faire, parce que je trouve que c'est vraiment dommage que les gens ils puissent être limités par des questions techniques, alors que aujourd'hui, du seul seul que voilà, même si vous en avez pas chez vous, même si vous-même vous avez pas ces compétences, il y a des gens ailleurs qui sont prêts à vous aider bien souvent bénévolement, quoi. Et voilà, et c'est comme ça aussi qu'il y a des ressources. Elles ne sont pas abondantes, mais il y a quand même des ressources, vous voyez, que vous pouvez mobiliser. Il suffit de savoir comment vous y prendre, vous organiser, ainsi de suite. Ou même s'il n'y a pas ces ressources qui sont disponibles, à force de faire votre travail d'investigation, vous suscitez de l'admiration et des gens qui veulent, des institutions, en tout cas des organes ou des citoyens qui veulent plus de transparence dans leur communauté, ils ne vont pas manquer à vous apporter des ressources, vous voyez. Et donc, c'est vraiment dommage que des gens puissent abandonner des projets d'investigation à cause de ces raisons qui sont largement surmontable. Donc moi, mon travail, c'est aussi essayer de faire la campagne, une sorte de campagne de sensibilisation pour dire aux gens, en tout cas, si vous avez des projets d'investigation, vous voulez enquêter sur quelque chose, essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire réaliser ça, essayons de voir comment est-ce qu'on peut dompter des obstacles comme les ressources financières, comme les questions techniques.
Et alors pour ça, il faut qu'ils prennent contact avec vous, le GIGN, donc c'est GIGN Afrique sur Twitter et sur Facebook, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, c'est GIGN Afrique. Et moi, il peut m'écrire aussi sur Maxime, maxime.domeni, domeni@gign.org. Ou bien ils vont tout simplement sur gign.org. C'est notre site internet, gign.org. Ils vont sur le site internet. En haut, ils vont voir les langues que nous couvrons. Ils cliquent sur français. Et voilà, donc ils peuvent nous contacter à tout moment et on fera de nos mieux pour les aider, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est le journalisme, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi je dois faire le journalisme, je veux dire le journalisme d'investigation ou le data journalisme, ou pourquoi je dois le faire, en quoi ça peut m'aider déjà, par exemple, vous voyez un peu. Et en fait, on ne se limite pas seulement à la production ou à la capacité, mais aussi à la distribution, vous savez. C'est dommage aussi, là, vous voyez, des gens qui mettent des mois, des semaines à travailler, et même de l'argent, prennent des risques fous à travailler sur des sujets sensibles, et après, il n'y a pas beaucoup de monde qui lit ça. C'est tellement frustrant, et ça n'encourage pas, en fait, à en produire la prochaine fois. Mais parfois, ça dépend de la façon dont vous avez rédigé votre histoire, la façon dont vous avez rendu votre investigation, la façon dont vous l'avez promue, vous voyez un peu. Et donc, là aussi, on essaie de promouvoir des techniques, des outils, des stratégies sur comment vendre ces projets d'enquête. Et donc, quels que soient les besoins que vous avez sur ces plans, on est là. Parce que voilà, comme j'ai dit, on a un réseau qui est vaste, de plus de 200 organisations qui font de l'investigation, donc qui ont des années, vous voyez, d'investigation, d'expérience, tout ça, qui ont travaillé sur des projets vraiment variés et divers. Et on est dans plus de nos membres, les organisations qui sont membres, parce qu'en fait, GIGN est composé d'abord de médias, qu'on appelle les non-profits des médias à but non lucratif, en fait. C'est eux qui constituent l'organisation. Nous, nous sommes la plateforme de ces médias. Et donc, il y a plus de 200 organisations comme ça qui constituent GIGN et qui sont représentées dans plus de 80 pays dans le monde. Mais nous apportons aussi de l'aide aux journalistes individuels dès qu'ils prennent contact avec nous.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peu de journalistes d'investigation et de médias d'investigation en Afrique francophone comparé, par exemple, à l'Afrique anglophone. Y a-t-il des initiatives qui ont attiré votre attention ici, en Afrique francophone, en matière et en termes d'investigation ?
Oui, bien sûr. Il y en a. Je parlais tout à l'heure de Cénozo, qui est la cellule Norbert Zongo du journal d'investigation, qui est basée à Ouagadougou, au Burkina, et donc qui couvre les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, et donc 16 pays, et qui fait beaucoup de choses ici. Je veux dire qu'en Afrique francophone, c'est vraiment la plus grande plateforme de journal d'investigation.
Qui est... Et ce n'est pas un média à proprement parler. Ouais. Y a-t-il justement des journaux ou des sites d'information qui sortent du lot ?
Oui, bien sûr. Justement, ça, c'est une plateforme, c'est pas un média proprement parlé. Mais bien sûr, je vais citer d'où je suis venu, l'Alternative, bien sûr, au Togo, qui fait des choses intéressantes. Quand j'étais là, on faisait, mais quand je suis parti, ils continuent de faire des choses vraiment impressionnantes. Là, en 2010, par exemple, l'Alternative a imposé, en fait, un sujet sur l'importation des produits pétroliers, autant pour moi, suite à leur investigation, qui a provoqué un certain nombre de choses, y compris des enquêtes gouvernementales, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a, par exemple, en Afrique centrale, vous avez un projet qu'on appelle The Muzeba Project, qui est un projet qui couvre le Cameroun, le Congo, et qui fait des choses intéressantes aussi, qui est un média d'investigation. Vous avez un média qui est investigation, qui est à cheval sur l'investigation, le data journalisme, qu'on appelle Info Congo, qui court en fait, qui promeut des investigations sur le bassin du Congo, en fait, qui utilise le data journalisme pour couvrir en fait les violations de les crimes environnementaux dans le bassin du Congo. Et donc, et bon, si je veux parler du Maghreb, il y a par exemple Inkifada, qui est un média en Tunisie. Qui fait des choses formidables là-bas, qui est, on va dire, le média d'investigation du Maghreb après la chute après le printemps arabe. Et en Algérie, il y a un autre média qu'on appelle Tuala Info, qui est né, je pense, il y a quelques mois aussi.
On en avait parlé dans l'atelier des médias, justement, de Tuala Info et de Inkifada.
Voilà, justement. Et donc, ça, c'est. Et donc, il y a de ces initiatives qui émergent doucement. Il y a, par exemple, ici, au Sénégal, le projet des jeunes reporters.
La maison des reporters.
La maison justement des reporters, portée par Moussa Ngom, qui est un jeune. Moi, je l'admire beaucoup parce qu'il n'a pas attendu en fait de quitter l'école avant de commencer le journal d'investigation. Il a commencé dès l'école et il a commencé très jeune, alors que bien souvent les gens pensent qu'il faut avoir fait 20 ans, 30 ans du journalisme, on va dire classique, avant de commencer par s'intéresser à l'investigation. Non, Moussa Ngom, il a commencé très jeune. Et il fait des choses extraordinaires. Il utilise un business model intéressant, en fait, le financement collaboratif. Et il remporte plusieurs prix. Ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Et je pense qu'il est admiré par beaucoup de personnes ici au Sénégal et au-delà.
Merci Maxime Domeni.
Merci beaucoup à Télé des Médias et à toute votre équipe de vous être déplacé ici. Et félicitations aussi pour tout ce que vous faites.
Et je rappelle que vous êtes le représentant en Afrique francophone du GIJN, Global Investigative Journalism Network. À bientôt.
À très bientôt.
RFI.
Avant de se quitter, place à Mondoblog Audio, qui chaque semaine fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
Salut à tous, moi c'est Tiasu, ou bien Tias de mon nom de plume sur Mondoblog. Je viens d'Antananarivo à Madagascar et vous pouvez me retrouver sur mon blog tiasraconte.mondoblog.org. J'ai enfin réalisé mon rêve, voyager et visiter l'île de Nouspé à Madagascar. Quand on parle de cette île, on pense belle plage, vacances, soleil, fêtes. Et moi, en plus de tout cela, je pense nomadisme numérique. Je me décrirais comme une amoureuse de la liberté, une âme extravertie mais également devenue solitaire. Le nomadisme numérique me va donc parfaitement bien. J'aime être seule et j'apprécie ma propre compagnie. J'ai aussi un rêve, rester au soleil. Mais surtout, j'ai toujours voulu voyager en travaillant. Et c'est ça le nomadisme numérique. Il me permet de travailler à distance et de voyager en même temps. Je déteste travailler entre quatre murs. Je hais la pression permanente des patrons. Je hais le fait de devoir travailler à des heures non flexibles. Surtout si c'est pour ensuite courir après les bus Tintin en arrive. Et pour rentrer le soir chez soi dans des quartiers où l'eau et le courant coupent tellement souvent qu'on a l'impression de vivre à l'âge de pierre. Je trouve plus d'inspiration quand je me retrouve dans un endroit chaud, ensoleillé, avec une belle vue. Je suis plus efficace dans ces endroits-là. J'ai aussi la possibilité de faire ça grâce à mon travail dans l'industrie numérique. Donc oui, je peux piloter mon entreprise à distance. Et je l'ai déjà faite à plusieurs reprises. À Thomas, à Diego, au Kenya. Mais alors, pourquoi Nouspé? Eh bien, je ne veux pas passer ma vie comme un ermite. Je souhaite rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Pouvoir vivre sous les tropiques, dans une cabane qui capte le Wi-Fi, au bord d'une mer comme celle de Nusirand. Et je veux pouvoir de temps en temps siroter un cocktail avec des amis. Mais Nusbe est une ville où le coût de la vie est cher et je dois vous avouer que les habitants ne sont pas forcément aimables. Et le pire, la route est gravement endommagée. En vérité, elle l'est tellement que je ne repartirai plus dans le nord du pays sauf si on m'offre un billet d'avion aller-retour. Malgré cela, Nusbe reste mon plus beau voyage jusqu'ici. Il m'a fait rencontrer des personnes devenues amies, bronzer au soleil, prendre une des plus belles photos de la planète et me sentir heureuse comme je ne l'ai jamais été. Et oui, les 1000 km valaient le coup. Mais le nomadisme numérique n'est pas encore donné à tout le monde.
Mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission. Je remercie Simon de Creuse qui en a assuré la réalisation. Si vous écoutez ce programme à la radio et que vous avez raté le début, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute en version longue sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.